Les parts actualités. Bonjour à vous toutes et vous tous. Très, très heureuse de vous retrouver ce matin en ce 15 février 2017 pour vous présenter les paractualités du jour avec en titre « Plusieurs technologies viennent à l'aide des personnes malvoyantes ». Et pour la deuxième année, l'Association des libraires du Québec présente son opération « Libraire à domicile ». Également à l'ordre du jour, une organisation qui a pour mandat de soutenir les activités offertes aux personnes handicapées dans Lanaudière pourrait fermer d'ici le 31 mars. Et puis, par contre, une histoire de succès pour une entreprise de Matane. Également, de l'autre côté de notre beau pays, 85 000 voyages en plus pour les personnes handicapées, annonce TransLink. Et Madeleine Stuart, qui est-ce? Eh bien, c'est une mannequin atteinte de trisomie 21 qui a présenté sa première collection à la Fashion Week de New York hier. Également, deux entrevues avec, un petit peu plus tard à l'émission, Marie-Ève Veilleux. Il sera question de transport, mais adapté. Et puis, également, avec François Landry, coordonnateur de la table régional des organismes communautaires du centre du Québec et de la Mauricie qui ont bien besoin d'aide. C'était un papier de Louis Garneau sur le site de Radio-Canada qui nous dit que de nos jours, plusieurs technologies viennent à l'aide des personnes malvoyantes. Elles sont plus de 100 000 au Québec seulement, dont 10 000 sont aveugles. Mais l'espoir se dessine à l'horizon, constate l'Institut national canadien pour les aveugles, autrement dit l'INCA du Québec. Après la semaine de la canne blanche, on nous dit que cette canne et le braille restent l'une des premières inventions pour aider les personnes en perte de vision à garder le contact avec le monde qui les entoure. Pardon pour le bafouillage, c'est une journée comme ça. Je dois avoir la bouche un petit peu enneigée. Alors, à moins de remplacer ce langage universel, le braille demeure essentiel pour l'acquisition de connaissances des non-voyants. Il permet toujours d'apprendre à lire, à écrire, à maîtriser la syntaxe et à développer le vocabulaire. Au lendemain de la semaine de la canne blanche, il est tout de même vivifiant de constater l'avancée des technologies pour redonner la vue aux malvoyants. Les personnes aveugles obtiennent déjà un soutien au quotidien et plus d'autonomie avec l'invention de la montre parlante, de l'alarme ou de la calculatrice. On peut enregistrer une note parlante sur un objet pour l'identifier au toucher, par exemple un vêtement ou une boîte de conserve, etc. Les téléphones intelligents sont une autre source d'espoir. L'iPhone offre une lecture d'écran intégrée avec un accès à l'Internet, au courriel et bien sûr d'autres applications. Les lecteurs optiques permettent de relire ou de traduire les images captées, qu'il s'agisse d'un courrier, d'une recette ou d'un menu de restaurant. Les commerces et les institutions ont également un rôle à jouer avec l'installation d'un terminal tactile ou la réduction des obstacles physiques pour les non-voyants. L'arrivée des automobiles sans conducteur améliorera bientôt l'autonomie des personnes malvoyantes également, mais elles auront toujours besoin d'un chien à Mira et d'une canne blanche pour leur déplacement et leur orientation, nous dit Sarah Rouleau, responsable des communications à l'INCA Québec, sans parler de la compréhension et de la courtoisie des citoyens qui les entourent. Pour la deuxième année, l'Association des libraires du Québec présente son opération « Libraire à domicile », un retour en force pour l'édition 2017 et une opération qui devrait vraiment inspirer. Le principe est simple, nous dit-on dans cette revue des libraires. Ce sont des personnalités québécoises et des libraires indépendants qui s'unissent pour l'accessibilité à la lecture. De février à juin, plus de 35 rencontres se dérouleront sur l'île de Montréal et quelques-unes auront lieu à Laval et sur la rive sud de la métropole grâce au nouveau partenaire, le groupe COGIR. Se joint également à cette année au regroupement québécois des résidences pour aînés et Execo, ainsi que deux partenaires présents depuis l'instigation du projet en 2015-2016, la Fédération québécoise du loisir en institution, la Société Logique, le CHU Sainte-Justine, l'organisme Vues et Voix et le réseau d'habitation en harmonie. Des développements sont actuellement en cours afin que les libraires à domicile puissent se développer ailleurs au Québec. Alors, une brochette impressionnante de personnalités et de libraires ont répondu positivement à l'appel. On pense par exemple à Michel Deslauriers, Dorothée Berryman, Robert Lalonde qui est venu ici. Également Pascal Montpetit, Michel Plomer, Louise Portal qui sont également tous des gens qui sont venus ici, ainsi que Monique Proulx, Patrick Sonécal, Louise Tremblay-Desciambre et d'autres. Et quand je dis ici, je parle de l'émission Des livres pleins, les oreilles, bien sûr. Ça a fait l'objet d'un papier que je vous ai lu dans le cadre de ces paractualités il y a maintenant quelques jours, et je m'étais dit que ça ferait aussi l'objet d'une belle entrevue, car on a dans ces coins-là de pays également besoin d'aide. Et voilà pourquoi je m'adresse maintenant à François Landry, qui est coordonnateur de la table régionale des organismes communautaires du Centre du Québec et de la Mauricie, TROC-CQM. Bonjour, Monsieur Landry.
Bonjour, madame.
Alors oui, j'avais lu dans un journal de votre coin, et d'ailleurs ça avait été relayé aussi par la presse, si je ne m'abuse, qu'il y a un manque criant de financement dans les organismes communautaires en Mauricie, centre du Québec, et si vous me le permettez, un peu partout au Québec. Hein?
Oui, tout à fait. Ici, dans la région centre du Québec-Mauricie, c'est 13 millions de dollars qui manquent pour les organismes communautaires en santé et services sociaux uniquement. Donc, si on élargit aux autres, en défense de droits notamment, aux familles, c'est environ 20 millions de dollars. Et pour l'ensemble du Québec, ça monte jusqu'à 475 millions de dollars, le sous-financement de l'ensemble des 4000 groupes communautaires du Québec.
Alors, la mission de TROC-CQM, ce serait peut-être bon de nous en parler un petit peu, M. Landry.
Oui, tout à fait. Donc, la TROC, comme vous le dites, c'est la table régionale des organismes communautaires œuvrant dans le domaine de la santé et des services sociaux au Centre du Québec et de la Mauricie. Donc, pour faire plus court, on va appeler ça la TROC.
Oui.
Donc, nous représentons 195 organismes communautaires en santé et services sociaux de la région socio-sanitaire Centre du Québec et de la Mauricie.
Mm-hmm.
Et nous avons comme mission d'accroître la visibilité et la reconnaissance des organismes communautaires, notamment, et bien entendu d'exercer des représentations et des pressions politiques, entre autres pour l'augmentation du financement des missions des groupes.
Et entre autres, donc, un message, parce que là, vous êtes en pleine campagne de mobilisation, il y a un message qui a été lancé vers le gouvernement québécois depuis le 23 janvier dernier. Moi, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler plusieurs fois. C'est « L'État haut, nos vies, c'est pas un jeu ». C'est exactement ce que vous lui dites.
Exactement, parce qu'en tant que grand argentier du Québec, en tant que ministre des Finances, il a le pouvoir de dire si oui ou non le gouvernement va réinjecter de l'argent dans les organismes communautaires.
Mm-hmm.
Donc oui, cet hiver, la campagne « L'État où nos vies n'est pas un jeu », on voulait faire référence à celui qui a la destinée des groupes entre les mains.
Mais moi, je n'arrive tellement pas à comprendre comment il se fait que l'austérité passe par des coupures au niveau de ces organismes-là qui ne vivraient pas sans une poignée de personnes. Est-ce que vous avez une réponse à ça ou pas?
J'aimerais tellement avoir
en avoir une, hein?
Magique, mais quand on rencontre les ministres, les députés, ils nous disent toujours, avec la petite table dans le dos, à quel point on est important. Ils aiment prendre des photos avec nous, se faire voir sur Facebook en coupant un ruban, en émettant un chèque de 200-300 $ à des groupes communautaires. Et nous, on a dit, passer de la parole aux actes, donc investir de l'argent à la mission et non pas seulement par des chèques discrétionnaires qui n'est pas de l'argent récurrent. Donc, si on veut stabiliser une équipe, si on veut stabiliser les services, si on veut rassurer et accueillir beaucoup de gens démunis et vulnérables, ça nous prend un budget récurrent année après année. Et là, le gouvernement libéral, en fait, l'ensemble des gouvernements, en fait, je vais revenir même encore plus loin, c'est depuis 1973 que l'argent n'a pas été bonifié, l'argent pour les groupes communautaires. Donc, depuis 1973, il n'y a eu que de l'indexation année après année, et l'indexation, ça tourne autour de 2 %. On entend que les charges sociales, les factures d'électricité, l'augmentation du service, du nombre de personnes qui frappent à nos portes augmente considérablement année après année. Et si on rajoute à ça l'austérité du gouvernement, qui lui appelle ça de la rigueur budgétaire, et que nous, c'est de la poudre aux yeux pour nous,
cette expression-là.
Donc, ça augmente considérablement et on en vient à ce chiffre que j'ai dit en introduction, 475 millions de dollars de différence pour combler le manque à gagner.
Et pour venir en aide à combien de personnes, à peu près, en gros, bien sûr?
En Mauricie, centre du Québec, je ne pourrais pas vous dire au Québec parce que c'est des centaines de milliers, mais juste ici, c'est plus de 20 000 personnes qu'on aide seulement à nourrir. 25 000 personnes qui sont en perte d'autonomie et 10 000 jeunes et surtout 9 000 personnes handicapées et leurs familles. Donc, pour la région seulement ici.
Parce qu'en plus, je ne comprends pas leur calcul, parce que ce sont des gens qui votent.
Ce sont des gens qui votent.
Non, mais à un moment donné...
Mais moi, ce que j'ai comme expression, c'est que la cause des vulnérables n'est pas sexy dans le discours populaire.
Ah oui.
Parce que les groupes communautaires sont là, on est considéré bien souvent comme du cheap labor.
Oui, ou comme des emmerdeurs même, non? À la limite.
Oui, ça dépend de quel côté de la rue on se situe.
Oui, oui.
Mais
non, pour eux, bien sûr.
Oui, tout à fait. Parce que le réseau de la santé écope présentement avec la réforme de M. Barrette. Donc, on coupe partout. Et là, les CIS et les CIUS de ce monde disent vers où on pourrait refiler ceux qu'on ne veut pas traiter ou qu'on ne peut pas traiter par manque de financement. On va les envoyer dans les groupes communautaires. Mmh. Alors que nous, on a déjà notre population, nos barèmes d'atteint. Et du jour au lendemain, on passe de 10 personnes par jour à 100 personnes par jour. Et ça, c'est pas des chiffres que j'envoie en l'air, c'est du concret chez nous.
C'est terrible, M. Landry, parce que voyez-vous, j'ai une image là qui me passe, qui me traverse l'esprit, et je me dis, si un jour, une personne dans un organisme ou une personne handicapée pète les plombs, vous savez, comme ça arrive que parfois on pète les plombs et on en voit même, dans ces cas-là, qui se procurent une arme et qui commettent des choses absolument incroyables. Est-ce qu'on va voir à ce moment-là, M. Couillard, à tout le monde en parle, en train de dire « Ah ben non, là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose ».
J'aimerais tellement pas arriver là parce
moi
que
non
les volontaires font de la prévention justement et avec les moyens du bord. Donc,
ben voilà.
C'est certain qu'on peut en échapper quelques-uns ou peut-être même qu'on n'est même pas au courant qu'une personne est en détresse parce qu'elle ne sait pas où se référer et parfois ils viennent dans nos groupes communautaires et on ne peut pas octroyer le bon service à la bonne personne parce que nous, chaque individu qui vient dans un groupe communautaire, il est pris dans son entièreté, non
bien
pas
sûr.
En termes de clients comme on peut voir dans un réseau. Donc, c'est certain que quelqu'un peut passer dans les mailles du filet et le gouvernement, avec ses coupures, on s'entend que le filet social s'effrite considérablement. Donc, oui, M. Couillard pourrait, là, tout le monde en parle, pleurer des larmes de crocodile, mais il aurait pu réagir avant avec le financement des groupes communautaires.
Cher M. Landry, on est de tout cœur avec vous et surtout, on est de tout cœur avec tous les organismes qui viennent en aide aux personnes pour qui nous travaillons ici à la radio Canal M. Alors, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions et puis croisons-nous les doigts pour le budget 2017-2018.
Merci beaucoup, puis merci de nous appuyer parce qu'on a grandement besoin d'appui dans la population.
Ça nous fait plaisir, M. Landry. Bonne fin de journée.
Merci, au revoir.
Dans l'action.com, d'après un papier de Caroline Morneau, nous sommes dans les paractualités régionales, on peut lire ceci, une organisation qui a pour mandat de soutenir les activités offertes aux personnes handicapées dans Lanaudière pourrait fermer également d'ici le 31 mars, une situation que dénoncent plusieurs intervenants du milieu communautaire. L'Association régionale des loisirs pour personnes handicapées de Lanaudière, l'ARL, LIPHL est une organisation subventionnée, méconnue de la population, puisqu'elle n'intervient pas directement auprès d'elle. Sa mission consiste plutôt à accompagner les organismes membres qui proposent des loisirs aux individus vivant avec un handicap. On offre de la formation, du référencement et différentes formes d'aide à des organismes qui, eux, proposent des activités et du divertissement aux bénéficiaires. Notre équipe est composée de professionnels qui apportent une aide essentielle et qui fait une différence, fait valoir Audreyline Lachance, directrice régionale de l'ARL-PHL. Loin d'un point de presse tenu à Joliette, plusieurs intervenants du milieu communautaire ont pris la parole pour dénoncer la dissolution potentielle de l'association résultant d'un arrêt du financement lui étant accordé. Soulignons-le, cet organisme disposait ces dernières années d'une subvention annuelle d'environ 60 000 $. Avec la formation et le soutien qu'elle offre à ses 40 organismes membres répartis dans toute la région, l'association estime desservir indirectement plus de 5000 personnes handicapées ainsi que leurs familles. Une bonne nouvelle maintenant, si vous le permettez, parce qu'il y en a aussi. Une histoire de succès pour une entreprise de Matane, telle que ça nous est révélé par l'agence QMI dans TVA Nouvelles. Le gouvernement du Québec a accordé une somme de 1,1 million de dollars pour un projet pilote de 2 ans dans 8 entreprises du Québec. Celui-ci vise à intégrer 55 % des participants à un emploi régulier au terme d'un stage de 52 semaines. La seule entreprise participante du Bas-Saint-Laurent est les ateliers Léopold Desrosiers de Matane. Elle emploie 180 personnes, dont 90 % ont des limitations physiques ou intellectuelles, une moyenne bien au-delà des normes gouvernementales. Nous, on travaille à 90-10. Actuellement, on est même à 94 %, mais la loi provinciale dit 60-40. Nous, on se dit qu'il y a plein d'autres usines dans le parc industriel qui peuvent engager les personnes sans handicap, mais qu'il y en a juste une pour les personnes vivant avec des problèmes de santé, explique la directrice générale Lucie Lapointe. Madame Lapointe soutient d'ailleurs que l'objectif de 55 % du gouvernement est tout à fait réalisable. Dans nos têtes, c'est fait, même qu'on va peut-être dépasser cet objectif. Dans le fond, ce qu'on a offert au gouvernement, c'est de dire « nous, on a ce qu'il faut en entreprise adaptée pour permettre à ces jeunes-là de ne pas faire le passage avec le bien-être social et de développer leur employabilité. » Les sourires sont nombreux dans cet atelier, dans les ateliers qui offrent des emplois en couture industrielle, en entretien ménager et en production de bois d'allumage, entre autres. La couturière Dalida Côté est en poste depuis 10 ans. Elle compte rester encore longtemps. J'ai des limitations et on est bien traité ici. Dernièrement, le directeur administratif riait quand le gouvernement ou l'OPHQ, c'est-à-dire l'Office des personnes handicapées du Québec, demande des statistiques sur les handicapés. Il me disait que lui, il s'installe dans le stationnement et regarde le nombre de personnes qui ont pu s'acheter une voiture alors qu'elles pensaient que c'était impossible parce qu'elles arrivaient de l'aide sociale. Moi, c'est la cerise sur le sundae de ma carrière. Je croyais à l'intégration des personnes handicapées et là, je fournis de l'emploi, dit Madame Lucie Lapointe, le sourire aux lèvres. Madame, puisse tellement de gens vous entendre et vous imiter. Elle est une habituée de Canal M et je la retrouve à chaque fois avec grand plaisir. Marie-Ève Veilleux, bonjour.
Bonjour.
Alors, faut-il rappeler que vous êtes de Québec Accessible? Vous en êtes la présidente, c'est comme ça qu'on dit?
Je suis cofondatrice. Personne, oui.
D'accord, exactement. Alors, le sujet aujourd'hui, le transport, mais adapté, hein, parce que oui, et encore, il faut en parler. Ben, c'est un des sujets dont vous voudriez nous parler aujourd'hui. Notamment, vous voudriez nous présenter la consultation de la SAAQ. De quoi s'agit-il?
Exactement. Donc, la Société d'assurance automobile du Québec a décidé de mener une consultation sur les enjeux de sécurité routière dans le but, justement, de trouver des solutions, puis de promouvoir, j'imagine, le partage de la voie publique. Et dans le fond, dans le groupe Facebook Transport Mais Adapté que j'ai co-fondé avec Laurence Parent, on a aussi fait un appel justement aux personnes handicapées de se mobiliser puis participer à cette consultation-là parce qu'on croit que c'est important d'y avoir notre place.
Bien sûr. Et est-ce que ça répond bien?
On ne sait pas parce que la consultation à Montréal est à venir.
Ah, OK, d'accord.
Dans le fond, il y a plusieurs membres de Transport Mais Adapté qui ont partagé les enjeux qui les concernent, qui sont importants pour eux en matière de sécurité routière.
OK. Et ça va avoir lieu quand, cette consultation-là de la SAAQ?
C'est en cours. Ils ont déjà fait plusieurs visites dans des villes. Mm-hmm. Et les gens pouvaient s'inscrire aussi, par exemple, pour venir à Montréal.
Oui.
Ça va avoir lieu le 27 et le 28 février.
D'accord.
Les inscriptions sont déjà terminées. Par contre, à Québec, 2 et 3 mars. Mm-hmm. Mais c'est aussi possible de remplir un questionnaire en ligne pour transmettre nos enjeux, puis aussi envoyer un mémoire plus long.
OK, mais vous me dites que pour Montréal, on ne peut plus s'enregistrer, on ne peut plus s'inscrire?
L'inscription est terminée, mais c'est aussi possible d'aller soutenir les personnes qui se sont inscrites
en
droit de parole.
Et est-ce qu'on sait où ça va se passer?
Ça va avoir lieu à l'hôtel Omni Mont-Royal, donc sur la rue Sherbrooke-Ouest.
D'accord. Vous voudriez aussi nous présenter quelques enjeux partagés par les membres de Transport Mais Adapté ou tout ça est dans le cadre de la consultation toujours?
Exactement. C'est
d'accord.
Dans le fond, on a lancé la question, c'est quoi les enjeux qui vous concernent? Donc, les gens ont pu partager sur le groupe Transport Mais Adapté. On parlait, par exemple, d'inquiétude par rapport au projet pilote sur l'utilisation des aides à la mobilité motorisée qui a été mise en place en 2015. Les gens savent pas trop c'est quoi le statut des personnes qui utilisent une aide à la mobilité. Il y a des restrictions et des pénalités monétaires qui ont été introduites.
Ah oui?
Qu'on ne demande pas aux piétons. Donc, on a une certaine iniquité par rapport aux gens qui utilisent...
Attendez, on vous donne des contraventions éventuellement?
Il y a des contraventions. Il y a une possibilité de recevoir des contraventions, par exemple, si on n'a pas les bandes réflectrices sur l'aide à la mobilité, etc. Donc, ça crée une espèce d'iniquité envers les piétons à qui on ne demande pas autant de restrictions.
Ben, quoi qu'on remarque de plus en plus, ça peut nous coûter cher de traverser quand il ne faut pas.
Absolument, oui. Oui, mais juste simplement circuler sur un trottoir, c'est rendu plus régulé pour un utilisateur d'aide à la mobilité motorisée que pour un piéton, alors que les études montrent que les utilisateurs d'aide à la mobilité motorisée ne vont pas plus vite, par
non,
exemple,
c'est, oui, c'est clair.
Qu'un piéton. Oui. Non handicapé.
Bien sûr, Marie-Ève. Et puis, je pense en ce moment à vous, ce matin, quand je suis arrivée ici, il était quand même assez tard, il était 11h10. Et à un moment donné, sur mon trottoir, j'ai croisé un jeune homme. Et lui, en plus, il était en petit soulier de sport. Hein. Très, très bonne idée quand il est tombé 30 cm de neige. Mm-hmm. Alors, c'est moi qui me suis tassée, mais on n'arrivait même pas à se croiser à pied. Et là, je me disais...
Non, l'hiver introduit énormément de problématiques pour les personnes qui ont une mobilité réduite, donc des enjeux de sécurité, des enjeux de déneigement des trottoirs qui permettent pas justement de se croiser.
Non, c'est ça, mais est-ce que vous avez remarqué que j'ai vu que les pistes cyclables étaient mieux déneigées que les trottoirs? Est-ce que vous avez le droit de rouler sur les pistes cyclables parce que ce serait une bonne idée en hiver?
Oui, absolument. J'ai moi-même utilisé la piste cyclable, justement parce qu'elle était mieux déneigée que le trottoir il y a quelques mois.
Allez comprendre quelque chose. Mais au moins, si ça vous sert à vous, Marie-Ève, on en est vraiment complètement ravis. On parle aussi du non-respect des stationnements réservés et de la sécurité, hein, de votre sécurité.
Exactement. C'est un autre enjeu qui vient quand on parle de sécurité routière. Dans le fond, les stationnements réservés aux détenteurs de vignettes pour personnes handicapées. Donc, les gens qui en ont pas utilisent toujours, encore et toujours, ces stationnements-là, en disant, là, c'est juste pour 2 minutes. Oui. Et sans savoir que ça peut mettre en danger les usagers en fauteuil roulant qui sont pas aussi visibles quand ils se déplacent dans un stationnement bondé. Et à ce sujet, il y a une vidéo qui a été créée par Mémo Québec en 2011 qui s'appelle Juste 2 minutes, qui montre très bien, justement, ce danger-là, qui serait important de... qu'on en parle.
Bien sûr, et qu'on sensibilise la population.
Exactement.
À ça, bien
oui.
sûr. Mm-hmm. Et puis, bon, écoutez, alors, vous nous rappelez les dates de ces consultations à Montréal, si on veut vous soutenir?
À Montréal, le 27 et le 28 février, à l'hôtel Omni. À Québec aussi, il va y avoir le 2 ou 3 mars au siège social de la SAAQ.
D'accord.
Donc, si on veut... être présent.
D'accord. Et puis sinon, vous pouvez aller sur le site de la SAAQ. On peut écrire consultation.saaq.gouv.qc.ca. De toute façon, c'est toujours la même chose. Et puis, slash, si vous voulez être plus précise, slash, je veux dire, barre oblique, participer. Voilà. Hein? C'est bien ça. Alors, Marie-Ève, je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette émission une fois de plus. Et on va souhaiter que ces consultations, au moins il y a consultation.
Oui, absolument.
C'est déjà une chose. Alors, espérons maintenant que ça aboutisse à quelque chose. Bonne journée, Marie-Ève.
Merci.
Au revoir.
Au revoir.
Par actualité nationale, 85 000 voyages en plus pour les personnes handicapées, annonce TransLink, publié le vendredi 10 février. Donc, voyez-vous, c'est très récent. C'est sur le site d'ici Radio-Canada, Colombie-Britannique, Yukon. L'entreprise de transport en commun du Grand Vancouver, TransLink, annonce 85 000 nouveaux voyages en 2017 dans le cadre de son programme Handy DART, j'imagine, ou DART, destiné aux personnes handicapées. Cette annonce fait partie d'un plan sur 10 ans pour améliorer la congestion automobile dans le Grand Vancouver. Handy DART offre un service de transport de porte-à-porte pour les personnes à mobilité réduite ou qui présentent une déficience intellectuelle. Nous savons que c'est beaucoup plus que de déplacer une personne du point A au point B, Handy DART, dit Tim Lewis, le coprésident de l'Alliance des usagers de Handy DART. Si quelqu'un n'a pas accès à ce service par manque d'offres, cette personne se retrouve coincée à la maison pour la journée, l'équivalent d'être détenue à domicile. Tim Lewis soutient que l'augmentation du service aidera les personnes à mobilité réduite à participer plus facilement au marché du travail ou à faire du bénévolat dans leur communauté. Le programme Handy DART équivaut à 1,2 million de voyages chaque année et prend en charge 23 000 personnes selon le directeur général de TransLink Kevin Desmond. Au cours des 3 prochaines années, des investissements supplémentaires dans Handy DART ajouteront 171 000 voyages par année, souligne un communiqué de TransLink, soit une hausse de 15% par rapport à ce qui est présentement offert. Elle s'appelle Madeleine Stewart. Elle est mannequin atteinte de trisomie 21. Elle a présenté sa première collection à la Fashion Week de New York. La Fashion Week de New York vient de défier quelques canons de la mode. Dimanche 12 février, la jeune mannequin trisomique Madeleine Stewart a en effet présenté sa première collection sportswear. À 21 ans et plus de 600 000 fans sur Facebook, la mannequin qui avait déjà défilé sous les bravos à New York en septembre 2015 est cette fois revenue présenter sa première collection. Pour les débuts de sa marque, 21 raisons. Donc pourquoi 21 Reasons Why, cette Australienne de 20 ans a présenté une ligne sport et décontractée en lycra avec collants, jupes et haut barrés de messages comme Super Mannequin ou Je suis la Fashion Week. C'est une ligne dans laquelle tout le monde peut être confortable et se sentir bien dans sa peau, a expliqué à l'AFP Roseanne Stewart, la mère de Madeleine. Le nom de la marque est une référence au 21e chromosome dont l'anomalie est à l'origine. Merci beaucoup, on est en train de me donner des feuilles. À l'origine de la trisomie, merci Martin, mais aussi à la volonté de voir le monde gagner. En diversité et au souhait partagé d'avoir 21 ans, a-t-elle expliqué. Elle a souligné que la collection avait été entièrement créée par sa fille, ainsi qu'elle-même. Madeleine entend continuer à imprimer sa marque dans la mode. Elle devrait participer à un défilé. Elle devait participer à un défilé le 13 février. Elle devait travailler comme mannequin à Los Angeles et à Londres et elle espère montrer bientôt sa collection à Denver et à la Semaine de la mode de Paris. C'est génial, hein? La jeune femme a aussi récemment obtenu un visa de travail américain, la seule personne à souffrir d'un handicap mental, c'est écrit comme ça, à avoir réussi à en obtenir un, a souligné sa mère. Le défilé de Madeleine s'inscrivait dans une série de présentations originales organisées dans une galerie d'art du quartier de Lower East Side. Voilà, ainsi s'achève l'émission des Paractualités pour ce matin. Je voudrais remercier ben gros toute l'équipe qui travaille avec moi et parfois dans la course pour que je puisse vous présenter cette émission tous les jours de 11h30 à midi. Je voudrais saluer mon camarade Jean-Sébastien Laliberté en régie et je voudrais aussi saluer mon camarade Martin Forgue qui vient de rentrer en studio pour vous présenter cette semaine, vous le savez, l'émission Bon pour la santé. Martin, c'est une première. Soyez gentils avec lui. Et lui, vous allez voir, c'est un ange. Alors, je lui cède le fauteuil et le micro. Et je vous souhaite à tout le monde une belle journée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 11h30. C'était Clotilde Saïs sur Canal M qui vous dit salut.